Oui, merci de m'accueillir ce soir pour cette conférence dont le titre est « Quel progrès pour la médecine aujourd'hui ?» Quel progrès pour la médecine aujourd'hui ? Dans ce titre, le mot essentiel, sans doute, est « aujourd'hui ». Et c'est celui-là qui va nous intéresser. Parce que le progrès d'hier, ce que la médecine occidentale a réalisé dans ces derniers siècles, il serait inepte, voire indécent, de les contester. Pas de contestation possible, donc, si on considère, par exemple, ce qu'était la médecine il y a 300, 350 ans. Par exemple, je vous propose comme expérience de pensée le fait de nous projeter en 1650. Cette année-là, le plus grand philosophe français, âgé de 54 ans, au sommet de ses moyens intellectuels, au sommet de sa gloire mondaine, est emporté en 3 jours par une banale pneumonie contractée dans les frimas suédois. Celui-là même qui avait écrit « J'ai résolu de n'employer le temps qui me reste à vivre à autre chose qu'à tâcher d'acquérir quelques connaissances de la nature qui soient telles qu'on puisse en tirer des règles pour la médecine, plus assurées que celles qu'on a eues jusqu'à présent. » Et il avait aussi écrit « On se pourrait exempter d'une infinité de maladies tant du corps que de l'esprit, et même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de connaissances de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature nous a pourvus. » Eh bien, ce mathématicien, ce philosophe, ce génie, Descartes est foudroyé par une maladie, aujourd'hui bénigne, aujourd'hui guérie par quelques grammes de pénicilline. La médecine, donc, n'en est plus là. Et donc, elle a fait des progrès phénoménaux en 3 siècles. Mais la question que nous nous posons ce soir est la suivante. Est-ce que ce magnifique progrès va continuer? Peut-il continuer? Et même, j'ose poser la question, doit-il continuer? Ne va-t-il pas rencontrer des obstacles limitant sa prétention d'être encore et toujours un facteur d'amélioration pour la vie humaine? Ne va-t-il pas créer des effets collatéraux, dans notre jargon on dit des effets secondaires, défauts artificiels plus graves peut-être que les défauts naturels auxquels il s'agissait de porter remède? Ne sommes-nous pas à un stade où tout progrès risque d'être payé au centuple par un recul paradoxal? Paradoxal, ce sont ces paradoxes donc, que je vous propose d'explorer. Ils sont suspendus au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Les explorer, c'est sans doute pas pour les résoudre, mais à tout le moins pour les comprendre. Voilà mon sujet. Et pour introduire ce sujet, il faut que je parle, que j'introduise donc la médecine elle-même. Parce qu'il y a un premier point qui ne prête pas à débat, selon moi, mais peut-être plus que selon moi, et en tout cas je vous demanderai de partir de ce point comme d'un acquis. La médecine, notre médecine, est arrivée là où elle en est grâce à une mutation essentielle, fondamentale. Elle qui était un art pratique, plutôt subtil certes, mais surtout très dogmatique et surtout très très peu efficace. On dit médecine hippocratique pour faire joli, c'est un nom flatteur, mais la réalité de la médecine d'autrefois était sans doute plus à chercher du côté de Molière. Et vous pouvez rappeler vos vieux souvenirs de malades imaginaires et autres Diafoirus et Purgon, pour voir ce que je veux dire. Donc elle qui était un art pratique est devenue une technoscience. Et s'il vous plaît, technoscience en un seul mot, sans mettre de tiret, parce que je vais essayer de justifier ce mot unique de technoscience. Et tous ces succès, dont on parle donc, tous ces succès découlent de là. Un développement technique appuyé sur un raisonnement scientifique. Et vraiment, je redis et je le martèle, parce que je pars de là, ça me paraît indispensable, c'est vraiment c'est plus qu'un présupposé, mais il faut partir de là pour comprendre ce que je vais vous dire, éventuellement pour le critiquer d'ailleurs. La médecine qui guérit n'est rien moins et rien de plus qu'un moyen technique fondé sur une connaissance scientifique. Et par connaissance scientifique, je veux parler de la science qui est née en Occident au XVIIe siècle, qui s'est d'abord attachée à des objets plus simples que le vivant, d'abord la physique, puis la chimie et puis la biologie. c'est la science, donc de Descartes, on vient d'en parler, de Newton, de Lavoisier pour la chimie, et pour la biologie, les noms sont innombrables, Harvey, Claude Bernard, Pasteur, je n'essaie pas de chercher des inconnus. Tout ça, ce mythe, vous parle forcément. Et quant au terme technique, il faut l'entendre au sens de Heidegger, c'est-à-dire une réquisition de la nature en vue de réaliser et de vérifier les intuitions scientifiques grâce à un dispositif expérimental. Et la technoscience, c'est ce va-et-vient entre observation de la nature, spéculation théorique mathématisable, la mathématique est très importante là-dedans, le nombre si vous voulez, et l'expérimentation. Et vraiment, il faut s'accorder sur ce point essentiel avant d'aller plus loin. Ce qu'on appelle le progrès en médecine, c'est le progrès technoscientifique. Or, de la connaissance scientifique et de l'action technique, il n'y a pas de progrès pour la médecine et pas de salut par la médecine, si tant est que la médecine doit faire le salut, on va devoir sans doute en parler. Donc la question que nous devons nous poser, vous voyez, je suis en train de repasser en avançant un petit peu dans ce titre, si le progrès médical passe par le progrès technoscientifique, est-ce que cependant le progrès technoscientifique implique nécessairement le progrès médical ? Et à un niveau au-dessus, est-ce que le progrès médical peut être considéré comme le progrès social, enfin le progrès tout court ? Vous voyez les trois niveaux. Ou autre formulation, est-ce que le progrès technoscientifique se traduit nécessairement en progrès médical qui lui-même se traduit nécessairement en progrès tout court ? Puisqu'on est des scientifiques, enfin j'ose pas dire savants, ça fait un peu ancien, mais de façon scientifique, je vais mettre ça en équation que j'interrogerai comme une hypothèse. Progrès technoscientifique égale progrès médical égale progrès social, avec pas mal de points d'interrogation. Vous voyez, je parle de la science. Puisque je parle de la science, je dois en définir le domaine d'application. Eh bien, le domaine d'intérêt exclusif de la science, c'est le domaine des choses. La science ne connaît que des choses, des objets. L'objet, c'est ce qui est jeté devant le sujet, donc des choses, des objets, je vais l'utiliser. Les philosophes qui sont ici vont sans doute me reprendre, mais j'utiliserai peut-être de manière un peu mélangée choses et objets. Mais enfin, ces choses, pour parler d'elles, elles sont mues par des lois déterministes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de liberté. Elles n'aiment pas, elles ne haïssent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'affectivité, et elles ne sont pas concernées par les catégories du bien et du mal, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de conscience morale. Donc la science qui les décrit est déterministe, indifférente sur le plan affectif et neutre sur le plan moral. Et ceci est sans importance quand l'objet de la science est une chose, un objet inanimé. Mais les difficultés commencent quand l'objet de la science est l'homme, qui a la prétention d'être un peu plus qu'un objet inanimé. L'homme qui s'éprouve comme libre, qui a une affectivité et qui est sensible, ou peut-être même gouverné, par la morale. Or, les efforts pour faire rentrer ces catégories dans le carcan des connaissances positives, jusqu'à présent, ont échoué. Et la science est restée impuissante à rendre compte de la liberté, de l'affectivité et de la conscience morale, autrement qu'en les réduisant à leur contraire, le déterminisme, l'indifférence affective et la neutralité axiologique. Quant à sa technique, vous savez bien qu'elle a tendance à transformer tout ce qu'elle touche en chose. Avec ses instruments, ses machines, la technique agit sur les choses, pas sur les êtres. Ce faisant, elle modèle la matière. On pourrait même dire qu'elle la met en forme. Ce serait un mot sans doute assez aristotélicien. Elle met en forme la manière qu'elle touche sous une forme justement adaptée à la technique, c'est-à-dire, une fois encore, inanimée, sans âme. Donc, il faut comprendre que pour agir sur l'homme par la médecine technoscientifique, maintenant je dirais médecine tout court, hein, parce que ça commence à faire un peu lourd, par la médecine, cette médecine si puissante, il faut faire abstraction de ce qui résiste, c'est-à-dire la liberté, l'affectivité et la morale, pour considérer l'homme comme un objet. Donc la technoscience ne mène pas à la conscience du sujet. On pourrait dire qu'elle induit la régression des modes d'accomplissement de la vie humaine, les réduisant à la catégorie uniforme qu'elle peut concevoir. Donc la technoscience est non seulement objective, mais aussi et surtout objectivante. Elle est objectivante. Un exemple, pour que ça reste moins suspendu en l'air. Un exemple, un bel objet d'étude pour la recherche en neurosciences, avec lequel je suis assez familière du fait de mon métier, je vais prendre l'exemple de l'amour. Beaucoup de neuroscientifiques, de sciences cognitives, s'intéressent à l'amour, évidemment, parce que qui ne s'y intéresse pas. Mais qu'est-ce que les sciences cognitives ont fait de l'amour, jusqu'à présent, du moins ? À part dissoudre le fait amoureux dans un flot d'hormones, de décharges synaptiques, d'activation neuronale, toutes choses qui n'ont rien à voir avec l'amour tel que nous pouvons le vivre et qui, j'ose le dire, ne nous apprennent rien sur lui, du moins rien d'essentiel, rien qui nous aide à vivre pleinement notre amour. De ces travaux scientifiques, l'amour ressort au mieux inchangé, au pire dénaturé, voire détruit. Il y a un précédent d'ailleurs, et je ne résiste pas à la tentation de vous citer cet ancien précédent, le résultat des méditations de Marc Aurèle au sujet de l'amour. Lui était stoïcien, appliqué à se guérir de ses désirs charnels, et il s'acharnait à se figurer l'acte sexuel comme il était, je cite, « un frottement de ventre et l'éjaculation d'un liquide gluant accompagné d'un spasme ». Très romantique, n'est-ce pas ? Eh bien, avec leur PET scan et autres IRM fonctionnels, les sciences cognitives aboutissent à un résultat à peu près similaire et, je crois, à peu près aussi décevant. Alors la médecine prétend contourner ce problème en promettant à l'homme, après son passage, un retour à son être originel, une restitution ad integrum. On peut lui faire confiance, elle vous remet en état de fonctionner, puis vous rentrez chez vous sans plus y penser. Elle est une parenthèse dans votre vie. Point. Il me semble que le simple bon sens commande de remettre en question la promesse rassurante que... l'intervention de la médecine n'a qu'un effet limité sur nous. On va en parler sans doute plus longuement dans la deuxième partie, mais il y a bien sûr les maladies chroniques qui affectent de manière très prolongée le statut du malade, ou plutôt qui attribuent définitivement un statut de malade à celui qui en est affecté, et ces maladies chroniques sont devenues extrêmement fréquentes dans notre société, où on ne meurt plus d'emblée quand on a une maladie grave, mais où le traitement permet ce qu'on appelle une rémission, qui dure longtemps, voire très 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 longtemps. Et pendant cette rémission, on est finalement la proie, ou en prise avec les représentations de la médecine, et si la médecine se représente cette personne comme un malade, eh bien ce statut de malade va déteindre finalement sur l'appréhension qu'il a de lui-même. Mais même pour les maladies aiguës, c'est-à-dire limité dans le temps, hein, aigu, chronique, la différence est simplement une question temporelle. On peut se demander s'il y a un retour à l'être non scientifique, l'être naïf, spontané, une fois qu'on est passé par cette moulinette de la grande découpeuse. Et j'utilise ce terme découpeuse en faisant rapport à l'analyse. Analyser, c'est la base de la méthode scientifique. Or, analyser, ça veut dire découper, décomposer. Parce qu'il faut décomposer un problème pour le comprendre. Eh bien, la science analysant, décomposant le problème, donc son sujet, son objet, la médecine en fait de même. Eh bien, il faut se demander si on peut recomposer ce qui a été si bien décomposé, analysé, réduit par la technoscience. Ou simplement, peut-on regarder sans dégoût ce qui n'est plus qu'un assemblage accidentel, au sens fortuit, de tissus, de cellules, d'atomes. Est-ce qu'on peut échapper au sentiment de la quintessence de poussière qui taraude déjà Hamlet, pour une autre raison peut-être, mais qui exprime un malaise de l'homme moderne quand même très profond. Sur ce sujet, je vous recommande un livre magnifique écrit par un philosophe contemporain, Jean-Luc Nancy, L'intrus. Jean-Luc Nancy était atteint d'une insuffisance cardiaque progressive. Son cœur était en train de mourir. Et lui-même n'a dû que sa survie qu'à une transplantation cardiaque. Et dans ce livre, il décrit les bouleversements de l'image de soi dont cette intervention sur son corps a été responsable. Après sa greffe, il est devenu, je cite, l'hôte d'un intrus, d'un étranger multiple. Il ne sait plus, ou peut-être que c'est lui qui est l'intrus, l'étranger. Il est devenu étranger à lui-même, si vous voulez. Il ne sait plus quelle est sa vie propre, cette vie qu'il s'agissait de sauver, cette vie qui n'est dans aucun organe et qui sans eux n'est rien. Comme si la propriété vie ne résidait pas dans le corps. C'est des mots que je tire de ce livre vraiment remarquable. Un petit livre facile à lire et très très troublant, vraiment. Tous les repères et les structures de sa personnalité sont menacés. Comment devient-on pour soi une représentation et un montage de fonctions Et où disparaît alors l'évidence puissante et muette qui tenait tout ça sans histoire assemblée? Tout le livre exprime l'aliénation. C'est un vieux mot de terminologie marxiste, mais ça veut dire devenir étranger à soi-même, hein. Aliène, vous savez bien ce que c'est. L'aliénation que ressent l'homme sur lequel la technoscience médicale étend ses bras d'acier. Mais d'un autre côté, sans sa transplantation cardiaque, qui semble avoir été un succès puisqu'il est encore là, sans cette transplantation, Jean-Luc Nancy serait mort depuis longtemps. Donc cette histoire nous aide à énoncer un premier paradoxe qui menace le progrès de la médecine moderne, ou plutôt qui menace le rapport progrès égale progrès-bénéfice, progrès-bénéfique, les progrès technoscientifiques en tant que bienfait. En sauvant l'être, la médecine le dénature, le rendant comme étranger à lui-même. Donc, finalement, pas d'étonnement. La médecine s'est opposée à la nature qui fait qu'on était malade. Et ce faisant, elle dénature l'être. Et c'est une souffrance où ça peut l'être. Donc ça, c'est un premier problème qui risque de s'accentuer au fur et à mesure des progrès de la médecine, des progrès des technoscientifiques, et qui est le point de vue du ou des malades, le point de vue possible, mais le point de vue régulièrement éprouvé par les malades. Mais en tant que médecin, je m'attache aussi à ceux qui pratiquent au quotidien la médecine, c'est-à-dire les soignants. La médecine, ce ne sont pas seulement les malades, ce sont les soignants. Et ce que pensent les soignants de leur métier est sûrement très important pour la façon dont ils ont l'exercer après, enfin après, en permanence, pendant. Eh bien, chez les soignants aussi, la prégnance de l'esprit technoscientifique a sa contrepartie. Et cette contrepartie, c'est, je crois, l'altération du rapport spontané, naturel, à la personne malade. Et je vais essayer de montrer pourquoi. Donc, l'origine de ce problème, c'est ce qu'on appelle depuis Max Weber, un philosophe et sociologue du début du XXe siècle, on appelle ça le désenchantement du monde, qui est suivi de près par la déshumanisation de l'homme. Sans doute parce que l'origine de la science, ce qu'on appelle la pulsion épistémophilique, ça fait un peu le vocabulaire de la psychanalyse, la pulsion de savoir, la pulsion épistémophilique, l'origine de la science, c'est certainement l'étonnement, l'admiration même. En grec, les Grecs disent « tomazain », l'admiration devant le monde. Et c'est parce que le monde est beau, parce que l'homme est grand, que nous sommes saisis du désir de les explorer, de les dévoiler. Ce dévoilement a effectivement commencé sous une forme philosophique en Grèce, il y a 2500 ans. Et puis il a continué en Occident, sous diverses formes, et notamment, beaucoup, de plus en plus, grâce à la science. Cette science donc qui analyse pour décrire, qui mathématise pour formaliser, puis qui expérimente pour tester ses hypothèses. Et c'est cette triple action d'analyse, de mathématisation, d'expérimentation qui a permis les immenses succès de la science occidentale, dont les succès médicaux. Mais c'est elle aussi qui double les succès d'un spectre effrayant. Car il faut bien dire que analyser, mathématiser et recréer par l'expérimentation le monde et l'homme qui en fait partie, qui est notre point principal, le monde et l'homme perdent les qualités qui avaient rendu si désirable leur exploration scientifique. Le monde n'est plus grand ou beau, et l'homme n'est plus grand, ou le contraire. Peut-être que le monde est beau, l'homme est grand, dans les deux sens, je crois que ça marche. Mais enfin, ni l'un ni l'autre ne sont plus digne d'amour, l'homme et le monde, une fois qu'ils sont réduits à une pure positivité, ne sont plus aimables. Et c'était l'affect qui avait poussé l'homme dans le monde muni de la science, et la science lui a rendu un homme privé d'affect, neutre, indifférent, sans charme. Sans charme, c'est vraiment des termes de Max Weber, désenchanté. Alors, en médecine, ce mouvement paradoxal est bien visible. C'est parce que nous aimons les hommes que nous voulons les aider à surmonter les maladies qui les accablent. Pour les soigner, il faut les connaître scientifiquement et agir sur eux techniquement. Mais ce qui est au bout de la connaissance scientifique et de la création technique, ces tas de molécules, ces paquets de gènes, ces réseaux neuronaux, tout cela est bien difficile à aimer et même à soigner au sens de prendre soin, comme on dit d'une mère qu'elle prend soin d'un enfant. On ne peut tout de même pas aimer un tas moléculaire. Enfin, moi, j'ai du mal, en fait, avec les tas moléculaires. Or, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, de plus en plus, c'est à des tas moléculaires très très perfectionnés, évidemment, mais des tas moléculaires quand même. Et les tas moléculaires ont remplacé les hommes. Et ils ont perdu au passage les qualités qui justifiaient les soins qu'on leur accordait. Alors, d'où les difficultés de l'entreprise médicale contemporaine. D'un côté, des tas moléculaires, bien incapables de donner une quelconque sollicitude, et de l'autre, des robots réparateurs, des systèmes experts, si vous voulez, qui agissent de façon mécanique sur ces tas moléculaires et auxquels nulle gratitude n'est due. Et évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, on ne trouve plus d'hommes, des hommes au sens complet du terme, des hommes véritables, en chair et en os, j'ose pas dire incarnés, mais enfin si, je l'ai dit, c'est-à-dire des hommes pleins de subjectivité, d'affectivité, de préférence, de croyance, de liberté, des hommes capables de choisir, de haïr, et d'aimer aussi parfois, et même d'être aimé. Évidemment, dans cette situation, personne n'est très content. Les uns, parce qu'il n'est pas très agréable d'être réduit à un tas moléculaire. Les autres, parce que passer sa vie en présence de tas moléculaires n'est pas très très gratifiant. Alors, ce tableau est assez déprimant. J'espère que quand même parmi d'entre vous, certains veulent faire médecine, beaucoup veulent faire médecine, ou de la médecine, tout ce qui est dans le spectre de la médecine, je veux dire aussi les infirmiers, et devenir des soignants. Donc, je ne voudrais pas les déprimer par ce tableau qui est exagéré, en fait. Évidemment qu'il est exagéré, car il dépeint une situation paroxystique vers laquelle nous nous dirigeons, mais non, nous sommes encore loin. Alors, c'est un travers de la philosophie que de pousser vers l'excès pour comprendre, pousser vers l'hyperbole. Les amateurs de Lévinas connaissent la tendance à l'hyperbole, c'est-à-dire exagérer pour faire comprendre. Mais là, il y a peut-être plus qu'un moyen philosophique de faire comprendre quelque chose, car il est possible aussi que ce soit plutôt on est en train de se diriger vers une situation de ce type et que nous soyons actuellement dans une période de transition. Dans une période de transition. Parce que nos représentations, c'est-à-dire la façon dont nous voyons le monde, sont encore héritées de la mentalité passée, où l'appréhension de l'être n'était pas scientifique. Car il faut se souvenir que la science est née dans un contexte de dualisme qui rendait possible la coexistence d'une pensée des choses qui était matérialiste, complètement scientifique d'un côté, et de l'autre, une conception traditionnelle des êtres, conception spiritualiste, gouvernée par la religion et la philosophie. Et Descartes, dont j'ai parlé en introduction, est le maître de ce dualisme méthodologique. Si vous voulez, c'est une méthode pour penser, et on sépare ainsi nettement le corps soumis aux lois de la matière et connu par la science, et l'âme qui est à l'origine de la pensée scientifique et qui est la tâche aveugle de la science. Cette âme a des prérogatives, notamment morales et affectives, qui n'ont rien à voir avec la science. Mais le succès même de la science des corps, petit à petit, il me semble, a résorbé ce dualisme. Après Descartes, et du fait des succès rencontrés dans la science des corps, on a commencé à appliquer aux êtres spirituels ces méthodes élaborées pour régir le monde matériel. Et aujourd'hui, on revendique une unité de la méthode de connaissance. Et comme la science ne peut à l'évidence pas être mise en question, c'est elle qui est vouée à s'étendre partout. Malheureusement, une représentation entièrement scientifique de l'être est incapable de fonder une éthique, ce qui est logique puisque la science ne connaît ni le bien ni le mal, seulement des faits sans hiérarchie ni valeur, en eux-mêmes toujours neutres. D'où une sorte de schizophrénie actuellement. Une schizophrénie, le schizophrène, c'est celui qui a une pensée clivée. Ça veut dire la schizophrène, la pensée coupée. Et nous sommes tous un peu schizophrènes. C'est-à-dire que nous continuons à agir selon des règles héritées de l'ancienne façon de considérer les êtres, la façon morale, tout en ayant sur ces êtres un regard qui est de plus en plus réifiant, chosifiant. Or, vis-à-vis des choses, on ne fait pas de morale. Alors, on peut se demander s'il faut bien qualifier de progrès cette évolution, parce que c'est une évolution qui, à terme, pourrait finir par dilapider, en quelque sorte, notre héritage moral. Car si on va au bout de cette représentation du monde, dans lequel il y a unification des choses et des êtres, il est probable qu'on se retrouverait incapable de fonctionner moralement. Et pour la médecine, ce serait catastrophique, car vous savez bien qu'en médecine, on demande non seulement d'être très technique, on lui demande d'être très technique, très technoscientifique, mais aussi et surtout très humaine, au sens de pleine de sollicitude. Quand je dis « on lui demande », ce sont nos commanditaires, les malades, la société civile. Et il va falloir d'ailleurs qu'on revienne sur ces demandes peut-être un peu contradictoires du corps social. Alors vous allez me dire qu'on est loin aujourd'hui d'une médecine qui transformerait intégralement le patient en tas moléculaire et le praticien en robot réparateur, qu'il reste encore bien du chemin à parcourir avant que ce qui était espoir devienne menace. Et effectivement, tant que l'efficacité de la médecine est incomplète, ses effets négatifs restent limités, de l'ordre de la spéculation philosophique. Mais du fait même des progrès réalisés, on se rapproche petit à petit d'un stade de puissance, voire d'hyperpuissance, où les bienfaits risquent de s'en transformer en méfaits et où le progrès risque de devenir facteur de régression. En philosophie, on connaît bien ce genre de bouleversement. Suivant la terminologie hegélienne, on parle de renversement dialectique. Un renversement dialectique, c'est un développement continu qui, à un moment donné, se brise en une discontinuité et qui bascule alors en son contraire. Eh bien, ce renversement dialectique, il serait à l'œuvre en médecine et nous serions sur le point d'en devenir les spectateurs. Et peut-être même le point dialectique a-t-il été déjà atteint, voire dépassé ? Peut-être que les progrès sont déjà en train de se transformer en régression. Notre équation progrès technoscientifique égale progrès médical égale progrès humain est peut-être déjà en train de devenir progrès technoscientifique égale recul humain. Alors c'est une critique radicale de la modernité portée par un certain nombre de penseurs. Je pourrais citer, et je vous recommande sa lecture, Günther Anders, philosophe élève de Heidegger, le premier mari d'Anna Arendt, mais je crois que ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il et elle avaient l'air assez, ça avait l'air un peu tendu entre eux, grand philosophe de, disons, l'après-guerre, années 50, 60, 70, grand philosophe technophobe, critique de la technique. Il était notamment engagé dans la lutte contre le nucléaire dans les années 60. Je ne vais pas parler d'Anders, parce qu'il faut bien faire un choix. Je me contente de citer une phrase tirée d'un de ses livres récemment réédités, « L'obsolescence de l'homme ». L'obsolescence de l'homme, vous voyez, déjà, le titre est tout un programme. Il est certes difficile de déterminer où doit s'arrêter le « oui » à la technique pour laisser la place au « non » à la technique. Car la technique n'est pas menaçante seulement là où elle devient avant tout une technique de la menace, comme aujourd'hui aux États-Unis. L'une des tâches essentielles de la philosophie de la technique sera de découvrir ce point dialectique et de déterminer où notre acceptation de la technique doit se muer en scepticisme, voire en dénégation farouche. Vous découvrirez tout seul Günther Anders, j'espère. C'est vraiment très intéressant, agréable à lire. Il parle pas énormément de la médecine, mais de plein d'autres exemples. En plus, il prend des exemples dans la vie quotidienne qui sont extrêmement troublants et fascinants. Mais j'ai choisi de vous parler plus longuement d'un autre philosophe moderne, un autre grand critique de la technique, Ivan Illich, dont je sais qu'on va vous parler et reparler. Ici même, et il y a de quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Illich. Alors, non seulement il a produit une pensée originale sur la technique dans le monde d'aujourd'hui, mais chance pour moi, il l'a appliqué à des exemples réels et notamment à la médecine, dans un livre percutant qui est un must de la technocritique et qui s'appelle Némésis médicale et qui est qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est quand même un livre, en plus c'est pas fait pour être drôle, mais il y a des choses assez drôles là-dedans et je recommande vivement cette lecture aussi. Donc le cœur de la critique d'Illich, c'est ce qu'il appelle la contre-productivité paradoxale. La contre-productivité paradoxale. La contre-productivité paradoxale, c'est ce qui survient quand un progrès, à un certain stade de développement, cesse de servir son but et se met même à le détruire. Il y a là une notion de seuil critique à partir duquel les institutions des sociétés modernes se transforment en obstacle à leur propre fonctionnement. Il a appliqué ça à différentes situations. C'est très connu avec notamment le transport et la vitesse qui font perdre du temps, à l'école qui abêtit, aux communications qui deviennent si envahissantes que plus personne n'écoute ni se fait entendre, etc. Et dans le domaine de la médecine, le progrès des techniques, loin d'améliorer la santé, se met à la dégrader. C'est ce qu'il appelle la iatrogénèse, la iatrogénèse. Et il décrit trois formes à cette iatrogénèse, donc la genèse de la maladie. Iatros, ça veut dire malade, hein, donc la construction de la maladie par la médecine. Évidemment, c'est un comble paradoxe. Donc, trois formes de iatrogénèse, la iatrogénèse clinique, sociale et structurelle. Alors, la iatrogénèse clinique, d'abord, ça regroupe, c'est bien compréhensible, ça regroupe les effets secondaires et les accidents qui menacent les malades soumises à l'action d'une médecine dangereuse. Ben là, c'est vraiment pas un scoop. Plus les médicaments et les techniques sont puissants, plus ils exposent à des risques. Soit des risques individuels, les accidents chirurgicaux, les infections acquises à l'hôpital, les infections nosocomiales, et les médicaments eux-mêmes, pensez à l'affaire dramatique du Mediator. Mais aussi des risques collectifs. Et par exemple, l'emploi excessif d'antibiotiques entraîne l'apparition de résistances bactériennes, ce qui fait que les infections sont de plus en plus graves et de plus en plus difficiles à traiter. Aujourd'hui, on pourrait espérer que les choses se sont améliorées et qu'il y a moins d'accidents du temps d'Illich. Ça date des années 70, hein, cette pensée. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. En repoussant les limites de la thérapeutique, on a pris en charge des patients de plus en plus fragiles. Et leurs problèmes et complications ont en quelque sorte absorbé les progrès réalisés dans la prise en charge des maladies faciles à traiter. Devenus chaque jour un peu plus des virtuoses de la technique, sans plus aucune limite à leurs indications et notamment plus aucun frein lié à l'âge, les médecins ne s'arrêtent plus avant la complication en quelque sorte. Il faut attendre que la complication survienne pour mettre un frein à l'emprise de la médecine. Et ce qui est vrai pour les personnes les plus malades et âgées, l'est aussi du côté des bien portants, ou plutôt de ceux qui, hier encore, se considéraient naïvement, j'ose pas dire bêtement, comme des bien portants. Et il faut pointer ici les effets délétères du dépistage, que ce soit dépistage des maladies à un stade précoce, vous avez peut-être entendu parler des doutes au cours du bien fondé, des dépistages des cancers de la prostate ou du sein, doutes scientifiquement portés d'ailleurs, car le bénéfice rendu à la collectivité est très douteux, ou pire, dépistage de ce qu'on appelle les facteurs de risque, qui ne sont même pas des maladies, mais qui font engager des interventions médicales non dénuées de conséquences sur la vie des gens. Et en clair, la médicalisation de plus en plus poussée d'états non ressentis par les gens eux-mêmes comme pathologiques les transforme en malades. Transforme en malades des gens qui se considéraient comme bien portants, et là, avec toutes les conséquences de ce changement de statut. Quelqu'un qui se sentait malade, ben vous ressortez d'ici, vous étiez bien, ben vous sortez, on vous dit que vous êtes malade, et il ne suffit pas de faire comme avant, vous ne pouvez pas simplement dire « c'est rien », parce que votre vie va changer à la suite de ce type de regard médical porté sur vous. Ça, c'était la iatrogénèse clinique. Iatrogénèse sociale. Alors, Illich décrit là l'effet de la médecine sur la société. Il estime que la médecine induit une disharmonie, ce sont ces termes, une disharmonie pénible entre l'individu et son milieu, d'où résulte une perte d'autonomie pour le sujet. Perte d'autonomie. Illich est un penseur de la liberté. Et donc, c'est un immense reproche pour, de la part d'Illich vis-à-vis de l'institution médicale, ce corps professionnel qui, en se réservant le soin dans toutes ses dimensions, entraîne l'aliénation, une fois encore, le fait de mettre les hommes sur le côté, à l'extérieur de leur propre santé. Au lieu de développer dans la population les moyens de se prendre en charge par l'éducation à l'hygiène, les façons simples de se soigner soi-même ou avec l'aide de l'entourage, on va jusqu'à interdire l'automédication. En témoignent d'ailleurs les notices d'emploi des médicaments. Quelle que soit la substance, regardez, quelle que soit la substance, hein, de l'antalgique banal, antibiotiques de première intention, jusqu'aux anticancéreux hautement toxiques, la notice se résume de plus en plus à « un employé que sous contrôle médical ». Alors avec ça, toute personne qui n'a pas fait ses 10 ans de médecine est bien avancée. Le résultat donc de l'emprise thérapeutique, c'est un véritable asservissement des gens à l'institution médicale, la faculté comme on dit. Je cite Illich, « La prolifération des professionnels de santé » n'est pas seulement malsaine parce que les médecins produisent des lésions organiques ou des troubles fonctionnels, hein, la iatrogénèse clinique. Elle l'est surtout parce qu'ils produisent de la dépendance. Cette dépendance vis-à-vis de l'intervention professionnelle tend à appauvrir l'environnement social et physique de ses aspects salubres et curatifs, bien que non médicaux, tout en diminuant les possibilités organiques et psychologiques que les gens ordinaires ont de faire face et de s'adapter. Au-delà d'un seuil critique, toute augmentation des dépenses engendre un déclin de la santé, à condition bien sûr de ne pas la définir comme le font les grands patrons de la production médicale, c'est-à-dire dans un sens qui sert leur intérêt. Chaque franc alors dépensé dans le service médical achète une confirmation de l'impuissance de l'homme assisté. La médecine moderne vise à ce que, écoutez bien, c'est assez joli, l'homme domestiqué entre en stabulation permanente pour se faire gérer dans une suite de loges spécialisées. L'homme domestiqué entre en stabulation permanente pour se faire gérer dans une suite de loges spécialisées. De là à la ferme des 1000 vaches, il n'y a qu'un pas. Alors, in fine, tout cela va déboucher sur ce qu'il appelle la iatrogénèse structurelle. La médecine interagit avec tous les domaines de la culture pour produire un homme nouveau adapté à son emprise totalitaire. Là, il faut bien prononcer le mot. Le résultat, c'est une régression structurelle du niveau de santé, manifestée dans les domaines de la douleur, de la maladie et de la mort, et même dans des domaines a priori non médicaux, comme l'éducation, la famille, le travail, etc. Dans une société traditionnelle, les embardés de l'existence humaine font l'objet d'une mise en forme qui leur donne du sens, en même temps qu'elle dicte des comportements valorisants pour l'individu. Eh bien, maintenant, c'est la médecine qui a son mot à dire sur nos comportements, quels qu'ils soient. On assiste à une médicalisation de plus en plus poussée de l'expérience humaine, avec un rôle croissant des experts pour nous dicter notre conduite face aux aléas de l'existence. Et la médicalisation intégrale de la vie est critiquée par Illich car elle aboutit, dit-il, à vider les épreuves existentielles de toute spiritualité, de toute signification propre. Déjà devenu passif face à sa santé, l'homme devient maintenant passif face aux grandes étapes de sa vie, perdant ainsi la sublime liberté qui le distinguait des animaux asservis au déterminisme biologique. Vous voyez, on tourne en rond. Alors la némésis médicale date de plus de 40 ans, 1975, 40 ans exactement. Mais ce livre est loin d'être démodé. À mon avis, il mériterait même une mise à jour avec des exemples contemporains qui illustreraient la pertinence des intuitions d'Illich. Il y a quelques vieilleries, notamment c'était encore l'époque maoïste et il était fasciné par la médecine aux pieds nus, des trucs comme ça. Ça fait un petit peu daté, mais pour le reste, c'est vraiment un livre pertinent aujourd'hui. J'ai, à vrai dire, l'ambition d'écrire une nouvelle némésis. Mais comme je suis assez paresseuse, je n'ai pas eu le courage de m'atteler à la tâche, qui est une tâche énorme en fait. Mais puisque je suis là et que j'ai été stimulée par Fabrice, qui me tire de ma léthargie intellectuelle, je vais tenter l'exercice. Parce que tout ça est resté un petit peu suspendu en l'air. Et là, je vais essayer de faire de la prospective pour voir avec Illich, selon les catégories d'Illich, où le prétendu progrès médical est en train de nous emmener. Et je vous propose cet exercice dans les trois grands problèmes de santé publique qui qui focalise l'essentiel de l'effort de recherche, puisqu'évidemment, qui dit progrès dit recherche pour faire des progrès technoscientifiques. Eh bien, on va parler du cancer, des défaillances d'organes et des maladies neurodégénératives, si vous le voulez bien, si je ne suis pas en retard. Le cancer. Alors, il ne faut pas désespérer Billancourt, mais quand même faire le bilan honnête de 50 ans et même plus de recherche intensive, d'un effort de recherche énorme, énorme sur cette maladie. Les progrès réalisés, car il y a eu des progrès, en fait, ont transformé le cancer, peu ou prou, en maladie chronique. Ça va être peut-être quelque chose qui va vous étonner, mais sachez qu'on ne guérit pas beaucoup plus le cancer en 2015 qu'en 1975. À cette époque, où vous n'étiez pas né pour la plupart d'entre vous, à cette époque, on faisait déjà des chimiothérapies pour les lymphomes et les leucémies, des cancers du sang assez chimiosensibles, et on opérait déjà de façon radicale, c'est-à-dire en enlevant complètement, les cancers non métastatiques. Mais ce qui est nouveau, très nouveau, c'est que la survie avec le cancer a été extrêmement allongée. Aujourd'hui, quand on a un cancer, on ne meurt plus rapidement, mais on ne guérit pas non plus. On ne meurt pas, on ne guérit pas. On vit avec le cancer. On survit en passant d'une chimio à l'autre, d'une radiothérapie ou d'une chirurgie à la suivante, et aussi grâce à des supports palliatifs variés. L'augmentation de l'espérance de vie, augmentation très souhaitable, hein, bien entendu, cette augmentation aboutit donc à la création d'une population de malades chroniques, toujours plus ou moins fatigués, toujours entre deux traitements, suspendus au risque de récidive, incapables ou difficilement capables de travailler, ayant du mal à s'occuper de leur famille, dépendant au long cours de l'aide des professionnels, et d'ailleurs aussi de l'aide de leurs proches qui sont régulièrement épuisés par la difficulté de cette tâche. Ça ressemble bien à ce qu'Illich appelle la iatrogénèse sociale, n'est-ce pas? Et ces patients si fragiles, sans cesse soumis à de nouveaux traitements, ils sont frappés de plein fouet par la iatrogénèse clinique, c'est-à-dire les accidents thérapeutiques. Ouvrez bien vos oreilles pour apprendre un chiffre éloquent. Dans la maladie cancéreuse, 30% des décès, un tiers, sont dus de près ou de loin à la thérapeutique. 30% des morts sont liés à la thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on a régressé dans le traitement du cancer, mais au contraire qu'on traite les patients jusqu'au bout, quel que soit leur état. On traite toujours jusqu'au bout. Et donc il y a toujours une chimiothérapie, qui s'avère la chimiothérapie de trop, l'intervention de la dernière chance qui effectivement expédie le patient à de patresse. Alors que les cancéreux mouraient jadis de leur maladie, beaucoup d'entre eux meurent désormais de la thérapeutique. Vous me direz que le résultat est le même. En fait, non, pas tout à fait. Sur ce chapitre, le spectre de l'acharnement thérapeutique ou de l'obstination déraisonnable, c'est mieux comme terme, plane avec toutes ses conséquences désastreuses. Alors me direz-vous, j'attends que vous me disiez, quand on a 20 ans, on doit dire ça, il faut travailler la recherche pour éradiquer le cancer, trouver le traitement qui guérira le cancer. Voilà une idée très bonne, voilà un but d'ailleurs. On travaille beaucoup là-dessus depuis l'après-guerre. C'est vraiment une bonne idée parce que grâce à ça, l'humanité sera délivrée du cancer et elle pourra alors évoluer sereinement vers la grande vieillesse, caractérisée au premier chef par les défaillances d'organes. Les défaillances d'organes, on va aller directement à mon deuxième chapitre. Les défaillances d'organes, qu'est-ce que c'est? Alors, une défaillance d'organes, c'est un terme un peu technique, médical, mais vous le comprenez, c'est l'usure physiologique ou pathologique des organes essentiels à la vie. Le cœur, les reins, le foie, le pancréas, les poumons, mais aussi ceux essentiels à la qualité de la vie. Les yeux, les oreilles, les articulations qui fait qu'on marche sans trop de douleur. Puisque nous avons échappé au cancer, nous allons décliner du fait de ces défaillances, sauf accident de la route évité par les radars et autres salutaires mesures policières. Bizarre paradoxe, étrange paradoxe. On est dans un monde où la mort se manifeste régulièrement au stade de la vieillesse, et pourtant on ne parle plus d'une mort de vieillesse, mais d'une mort d'une défaillance d'un organe clairement identifié, défaillance contre laquelle on a lutté pied à pied. Mais non. Grâce au progrès technoscientifique, on va pouvoir traiter une à une les défaillances d'organes. Enfin, traiter jusqu'à un certain point. Tôt ou tard, l'usure imposera de remplacer les organes les plus abîmés par des pièces détachées neuves. Et c'est le miracle de la transplantation. Miracle autant pour le patient que pour le laboratoire pharmaceutique qui fabrique et vend des immunosuppresseurs à prendre au long cours, enfin passons. Mais le réservoir de pièces détachées, vous le connaissez. C'est vous. Et il n'est pas sans fin. Ce d'autant que malheureusement la sécurité routière, grâce au radar, a fait des grands progrès. Alors voici expliqué, de manière un peu... C'est pas si comique au fond, mais enfin voici expliqué le grand problème des pénuries d'organes. Vous avez forcément entendu le problème des pénuries d'organes, à laquelle il faut sensibiliser le public par des campagnes promotionnelles bien émouvantes, bien moralisantes. Mourez au plus vite, les organes sont attendus par les malades. Cette pénurie d'organes est due à l'explosion des indications de transplantation. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites, notamment plus de limites d'âge pour envisager une transplantation rénale, cardiaque ou hépatique. Une greffe de cornée, une greffe d'artère, une greffe de moelle osseuse. Ce qui fait que, pour rendre possible cette inflation de greffe, on prélève des organes même chez des personnes âgées. Décédées, par exemple, d'accidents vasculaires cérébraux, parce que malheureusement, les vieux ont une vie moins désordonnée que les jeunes et ils meurent beaucoup moins d'accidents de la route. Et ensuite, on attribue les greffons selon un processus d'appariement suivant l'âge et les pathologies associées. Les patients âgés doivent se contenter des organes des donneurs de leur âge. C'est vrai, hein, c'est un véritable trafic qui est à la limite du sordide d'ailleurs. Mais un jour viendra cependant où les décès de bien portants ne suffiront plus à alimenter les besoins des malades à greffer. Qu'à cela ne tienne, on prélèvera des vivants, des prélèvements survivants. Deux reins, c'est plus qu'il vous en faut, non? Surtout d'ailleurs si vous êtes pauvre et à l'affût d'un moyen de nourrir votre famille. Ou bien si vous êtes dans la dépendance affective de cette même famille qui, soutenue par l'institution médicale si charitable, fera pression pour obtenir les précieuses pièces détachées au profit de votre frère, sœur ou cousin éloigné, ce cousin que vous n'aviez jamais plus blairé, mais qui osera le dire. Bon, malheureusement, on n'a qu'un cœur, donc la prétendue générosité des prélèvements entre vifs, ça s'appelle prélèvement entre vifs, trouvera sa limite. Vous voyez, les problèmes éthiques de la transplantation semblent épineux. Et donc, il va falloir continuer à travailler, et le progrès viendra, bien sûr, d'où peut venir d'autres, de la recherche et de la science, qui certainement sera capable d'élaborer des organes artificiels, cultivés à partir des cellules du receveur à venir parce qu'on n'était pas encore, il va falloir se préparer une sorte de support immunocompatible, un support, j'ose pas dire, des animaux. Hein, parce qu'à ce stade d'artificialisation, on aurait bien du mal à reconnaître nos amis à quatre pattes. Et ce progrès nous est, paraît-il, le progrès des organes artificiels nous est promis à court terme et il permettra de résoudre les défaillances d'organes puisque tout pourra être changé à partir d'un réservoir mi-naturel, mi-artificiel, greffable à l'infini. Et ainsi, on pourra encore continuer et on sera amené nombreux vers le troisième drame de la santé publique, les maladies neurodégénératives. Vous voyez le glissement habile de cette affaire, du cancer. La victoire sur le cancer nous entraîne vers les défaillances d'organes et la victoire sur les défaillances d'organes nous entraîne vers les maladies neurodégénératives car pour l'encéphale, et là vous pouvez en croire un neurochirurgien, un neurologue, il n'y a pas grand-chose à faire, l'encéphale ne se greffe pas encore. D'ailleurs, si on faisait une greffe de cerveau, en vérité ce serait plutôt une greffe de corps puisqu'on peut imaginer que c'est plutôt le cerveau qui porte l'essentiel de nos qualités. Alors bien sûr, il va y avoir des progrès, puisqu'il y en a partout, sur le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, mais tôt ou tard, l'organe suprême finira bien par se dégrader. Et comme tous les autres organes seront bricolés, réparés, voire remplacés, l'écrin restera brillant alors que la perle se racornira petit à petit. Belle image. Ainsi, avec un peu de chance, chacun d'entre nous pourra, grâce à la médecine, évoluer vers la démence sénile. Comme si la démence était la limite nécessaire et suffisante que la nature oppose à nos efforts de longévité médicalement assistée. Alors voici le tableau idyllique de la fin du progrès médical. Une société de grands vieillards qui ont échappé au cancer, dont on a réparé ou changé les organes les plus usés et qui déclinent doucettement dans leurs EHPAD, les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, luxueuses ou sordides, à charge pour une minorité de jeunes de payer leur retraite au long cours, au très long cours. Si ce n'est pas de la iatrogénèse structurelle, ça. Mais sans doute n'avons-nous pas encore été assez ambitieux. D'où nos difficultés avec arrière-grand-papa tout baveux dans son fauteuil roulant. Il faut sauter le pas et préparer le grand soir. La mort de la mort suppose en parallèle la naissance de l'homme augmenté, ou H+. Grâce au progrès de l'informatique et la miniaturisation des techniques, on nous promet des neuro-implants capables d'améliorer à peu près tous nos processus cérébraux, voire une pensée hybride téléchargeable sur ordinateur. C'est ce qui arrive à Johnny Depp dans Transcendance, que vous avez peut-être vu au cinéma. Quant aux organes usés par le vieillissement et la maladie, ils seront régénérés à l'infini par les nanotechnologies, et dans le même temps, on procédera à une sélection drastique des embryons conçus par fécondation in vitro. Seuls les plus performants seront conservés et implantés, éventuellement dans une utérus artificiel, voire clonés pour améliorer peu à peu la qualité du cheptel humain. Et au bout de tous ces progrès, permis, paraît-il, par les NBIC, Nanotechnology, Biotechnology, Artificial Intelligence, Cognitive Science, un surhomme quasi immortel écrasant les résidus minables d'un ordre naturel devenu obsolète. Avec le transhumanisme, car c'est ça dont il s'agit, l'alibi thérapeutique s'efface. Le temps des prothèses permettant de réparer la nature défaillante va céder la place à celui des implants, capables de démultiplier les capacités humaines, créant ces H+, qui vont bouleverser notre monde étriqué. Et ce, à très court terme, et ça a été d'ailleurs annoncé par un futuriste dans les années 60. Ce type avait un nom inconnu, mais il s'en était choisi un. C'était FM 2030, je vous lis ce qu'il écrivait en 1966. Le nom 2030, le nom FM 2030, reflète ma conviction que les années aux alentours de 2030 seront des années magiques. En 2030, nous serons immortels et tout un chacun aura de grandes chances de vivre éternellement. 2030 est un rêve et un but. Malheureusement pour FM 2030, il est mort en 2000, au tournant du siècle et du millénaire, à l'âge de 69 ans. Qu'à cela ne tienne, il a été illico-cryogénisé dans l'attente de jours meilleurs. Persuadé que FM 2030 n'avait eu simplement raison trop tôt, les tenants du transhumanisme, Hans Moravec, Ray Kurzweil, Nick Bostrom et autres grands hommes, paraît-il, soutenus par des mécènes comme Peter Thiel et Google, travaillent d'arrache-pied à leur projet d'humain augmenté. Travaux dont on ne sait s'il faut s'effrayer ou se moquer. Alors, quelle est la réaction du public face à cette réalité dérangeante? Ça vous a fait rire, parce que je l'ai présenté de manière parfois un peu comique. Il faut bien. Mais la vérité, c'est que la réaction est plutôt de défiance, voire de rejet. Et de plus en plus, la société s'émeut, s'effraie du dérapage de la technomédecine et envisage des mesures radicales pour la contrôler. Il y a aujourd'hui un climat de mécontentement sourd, des plaintes diffuses, un vague ressentiment. Et au minimum, ce mécontentement se traduit par une méfiance vis-à-vis des médecins et des traitements qu'ils proposent. J'ai lu très récemment le résultat d'une étude, un sondage dans la population générale. 29% des personnes interrogées, presque une sur trois, disaient qu'ils préféreraient écourter leur vie plutôt que de prendre des médicaments tous les jours. Or, prescrire toujours plus de médicaments, n'est-ce pas exactement ce que la médecine fait au quotidien? Alors évidemment, ce n'était pas des personnes malades qui disaient ça. Donc, on peut penser que, mis au pied du mur, ils changeraient ou ils changeront d'avis. Mais c'est quand même révélateur. Mais en même temps, les gens ont foi dans la science pour améliorer leur vie. Ils s'en remettent massivement aux experts. Ils sont friands de nouveautés en matière de traitement et confiants dans le marché des sciences. Ils sont tenus en haleine par des médias avides de sensationnel et ils adhèrent aux valeurs de progrès. Et justement, qu'est-ce que le progrès en pareille matière? Allonger l'espérance de vie au prix de l'explosion du nombre de personnes âgées dépendantes, est-ce vraiment cela le progrès? Remplacer un organe défaillant après l'autre pour faire de la démence la borne finale commune de la grande vieillesse, est-ce vraiment cela le progrès? Restaurer la vision chez un aveugle ou l'audition chez un sourd grâce à des implants cérébraux, ça semble un progrès. Mais créer un surhomme aux facultés démultipliées, est-ce vraiment cela le progrès? Guérir la stérilité est un progrès. Produire de manière industrielle des enfants à la qualité garantie par contrat, est-ce que c'est vraiment cela le progrès? Confiance dans la science et ses utopies, défiance vis-à-vis de la médecine et ses réalités, voilà les paradoxes qui s'entrechoquent violemment avec un ressentiment mal explicité. Alors, que font les praticiens là-dedans? Est-ce qu'ils clarifient leur position? Est-ce qu'ils présentent honnêtement leurs possibilités et leurs limites? J'ai plutôt l'impression qu'ils font monter la sauce par des promesses mirobolantes. Ils croient de leur devoir. Vous savez, il y a un côté corporatiste. Et chaque corporation doit en rajouter dans l'apologie de sa discipline, en l'occurrence la médecine sauveuse des âmes et des corps. C'est vraiment un réflexe de défense corporatiste et il ruine les derniers espoirs de réflexion sincère sur les difficiles problèmes de société légués par la médecine. Le lobbyisme médical rentre en action, appuyé sur les chars d'assaut de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie hospitalière et de l'industrie tout court. Dans un monde où chacun doit défendre son bout de gras pour éviter le chômage, les intérêts catégoriels pèsent lourd. Il faut à la fois susciter la demande de soins de la part des nouveaux patients, considérés comme des clients, et prouver le service rendu aux tutelles, car on est dans un système où il y a ce qu'on appelle le tiers payant, finalement. Le bénéficiaire des soins ne les paie pas directement. Et pour cela, il faut développer une activité, on appelle ça l'activité, qui est la base de la valorisation financière, bien sûr. À l'hôpital, on appelle ça la tarification à l'activité, la T2A, et cela crée, ça organise et même ça aggrave cet état de fait en organisant la compétition entre les différents services, une lutte pour obtenir différents moyens, des postes, du matériel technique, des lits d'hospitalisation, ou au moins pour éviter les coupes budgétaires. Toujours plus d'actes médicaux, c'est toujours plus de malades dépendants de la médecine, ce qui génère encore de nouveaux actes. Non sans cynisme, la médecine crée elle-même le besoin de soins médicaux. Et de même que les marées noires augmentent le PIB du fait de la nécessité de nettoyer les côtes, la médecine de haute technicité en amont augmente la demande médicale en aval. Enfin, quelques exemples. Les traitements anti-agrégants, anticoagulants qui évitent les thromboses ont pour effet secondaire des hémorragies, notamment cérébrales, je suis bien placée pour vous en parler, et ces hémorragies sont pourvoyeuses de déficits neurologiques à prendre en charge en neurochirurgie, formidable, en réanimation, en neurologie, en rééducation. Dans le cancer, les chimiothérapies jusqu'au boutiste rendent nécessaires les soins palliatifs et les soins de support. La transplantation, on a déjà parlé, bien ça suppose des immunosuppresseurs à prendre au long cours, et ces médicaments sont à l'origine de nouvelles maladies, comme des cancers. La réanimation intensive des malades cérébro-lésés aboutit à la création de handicapés pour lesquels il faut des structures médicalisées. La prolongation de la vie vers la grande vieillesse débouche sur des altérations cognitives, on en a là aussi parlé, qui imposent de placer des personnes dans des institutions médicales. Et plus largement, regardons le mode de vie dans notre société, comment elle suscite des pathologies nouvelles, candidate à une consommation médicale hyperbolique. Les stérilités induites par la toxicité d'un milieu contaminé par les perturbateurs hormonaux poussent à la PMA, la procréation médicalement assistée. L'obésité, due à un mode de vie trop sédentaire, est un nouveau gisement de pathologie pour les professionnels. Les déséquilibres lipidiques provoqués par la nourriture industrielle sont une manne pour l'industrie pharmaceutique. Les contraintes de performance au travail ne peuvent se gérer sans l'aide de psychotropes vendus en pharmacie et de coachs consultables sur rendez-vous. Les errements de l'éducation moderne fabriquent des enfants hyperactifs qu'il faut calmer à la ritaline, des adolescents déprimés qu'il faut stimuler au Prozac et des adultes angoissés qu'il faut tranquilliser à la Tarax. Et bien sûr, des amants défaillants qu'il faut exciter au Viagra et in fine, des centenaires d'Hécatie qu'il faut expédier à l'hypnovelle. Puisque vous appréciez ce tableau, je ne vais pas en rajouter, il suffit en fait d'ouvrir les yeux et vous pouvez vous-même faire ce travail. Un travail. Partout autour de nous, les seuils de contre-productivité paradoxale sont atteints et même dépassés. Comme l'écrivait Bergson, l'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. C'est à désespérer du progrès. Nous constatons avec amertume que le présent, à mesure qu'il réalise les attentes de Descartes, les déçoit. Illich a analysé ce processus selon la formule biblique « la corruption du meilleur engendre le pire ». Philosophe du déclin contre prophète du progrès à 350 ans d'intervalle, j'ai peur que ce soit Illich qui l'emporte contre Descartes. Voilà les cadres qu'Illich a donné pour penser la situation où nous sommes. Est-ce qu'il a aussi donné des pistes pour la corriger ? Là va s'ouvrir la discussion, parce que vous savez que la philosophie est assez forte pour décrire, mais quant à proposer des remèdes, c'est autre chose. Moi, j'ai mon idée, en tant que chirurgien attaché pourtant à cette médecine que je pratique avec passion depuis 30 ans, j'ai mon idée pour tenter de sauver l'essentiel, pour passer d'une religion du progrès avec un grand P à peut-être une sagesse des petits progrès. Mais j'aime mieux ouvrir la discussion et vous laisser un peu la parole.